Salut Ton.
Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Amis auditeurs, bonjour. C'est aujourd'hui la 30e de Saluton. Et nous avons rendez-vous avec Pascal et Jean-Claude Martin, qui n'avaient que 3 mois d'espéranto lorsqu'ils ont été interviewés par Pascal Gado de Radio Liberté. Nous vous proposons quelques minutes de cette interview réalisée à Ribérac, où Jean-Claude et Pascal vous parlent de leurs premiers pas dans l'étude de l'espéranto, ainsi que de leur projet de participer l'été prochain au Congrès universel qui aura lieu à Cuba. Pardon pour le petit bruit de fond qui ne vous empêchera pas d'écouter les arguments de nos amis.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, Pascal Martin, Jean-Claude, d'intégrer ce groupe? Qu'est-ce qui vous a passionné? La curiosité peut-être au départ ou autre chose?
Alors évidemment de la curiosité, puisque j'ai cessé mon activité professionnelle depuis 3 ans maintenant. Mmh. Et puis l'idée que c'est une langue universelle, donc ça m'intéresse beaucoup, le fait que dans le monde entier on puisse se comprendre avec une seule langue, je trouve l'idée vraiment très passionnante. Mmh.
Oui, c'est sûr, et l'esprit qui anime le groupe de Dordogne, de Périgueux, nous a séduit assez vite parce qu'on a rencontré des gens aussi bien de Ribérac, Villetouré et de Périgueux qui nous ont parlé de l'espéranto assez naturellement, et il y a un esprit en particulier de bénévolat, puisque les cours qu'on peut, avec même l'antenne de Tocane, il y a des gens qui viennent, enfin les enseignants se déplacent de Périgueux, et tout ça est gratuit, et donc il y a un esprit bénévole assez rare finalement aujourd'hui, hein, mmh. qui anime ce groupe et qui est présent dans toutes les actions du groupe espérantiste. Et puis l'espéranto, c'est quand même pour moi le pacifisme, quoi. Voilà. Et ça, c'est très très attirant aujourd'hui. C'est assez extraordinaire, parce que moi, le débutant, j'ai été un peu attiré par ça. On m'a dit, après 6 mois, disons, si on travaille bien, vers l'été prochain, je pourrais choisir un correspondant dans la nationalité qui me convient, et aller communiquer avec un japonais dans une langue qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la mienne, en 6 mois de temps, on va dire, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, et il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de, moi je peux pas apprendre le japonais en moins de combien de temps, 5 ans, 6 ans, c'est pas rien. Donc,
c'est voilà. Une ouverture d'esprit, une culture que l'on découvre facilement. Oui.
Pour l'instant, je trouve ça assez facile. Effectivement, il y a un état d'esprit là qui s'installe. Tout se fait dans le calme, et la grammaire ne semble pas difficile pour l'instant. Alors bien sûr, ça va sans doute se compliquer un petit peu. Il y a peu de règles de grammaire. Il n'y a pas beaucoup de pièges, hein. Voilà. C'est un projet qu'on va peu à peu poser, et donc là maintenant on va s'efforcer de construire ça, ouais. Ça nous tente beaucoup. Cuba nous tente beaucoup, et le congrès d'espéranto à Cuba aussi. Voilà.
Donc finalement ça va être un prétexte, l'espéranto, pour aller découvrir
Absolument.
Cuba.
Voilà, tout à fait. Et rencontrer à la fois des Cubains, bien sûr, mais aussi d'autres personnes de toutes les régions du monde. Donc ça, c'est aussi assez palpitant, intéressant. Ouais. Et puis ça va aussi nous permettre de progresser encore plus rapidement, je pense, parce que ça fait une motivation supplémentaire pour apprendre l'espéranto très rapidement.
Et dialoguer finalement avec des populations nombreuses et qui ont elles-mêmes leur propre langue. Donc finalement, il n'y a pas besoin d'apprendre 10 langues. Là, avec une seule, vous allez pouvoir communiquer. Hein.
Tout à fait, avec une seule langue. Moi, ce qui me paraît assez étonnant, c'est de pouvoir dialoguer, par exemple, avec des Asiatiques, aussi bien des Chinois, des Japonais. J'aurais jamais imaginé pouvoir parler un jour avec
Japonais.
Avec un Japonais, et apprendre le japonais, c'était pas dans mes projets. Donc apprendre l'espéranto, ça me paraît une meilleure solution.
Oui, mais aussi des Hongrois, des Finlandais, ce sont des langues très difficiles, hein. Et bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup, je pense il y a beaucoup d'Hongrois, il y a beaucoup de Finlandais espérantistes.
Nos professeurs actuels nous disent que on fera peu de dictées parce qu'en fait, quand on fait une dictée, on fait très peu de fautes. Mmh. Parce que comme on entend tout ce qu'on écrit, en fait, il n'y a pas de fautes. Donc,
c'est phonétique.
Voilà, c'est complètement même peut-être phonétique, on peut dire.
Donc ça permet aussi peut-être, Pascal et Jean-Claude, d'apprendre plus facilement l'espéranto lorsque l'on découvre ces articles sur Internet.
Enfin, moi, ma démarche a été plutôt de comprendre l'histoire de l'espéranto, donc l'origine avec Zamenhof, le nombre d'espérantistes dans le monde, c'est ça qui m'a intéressé. Pour apprendre, je fais plutôt confiance à mes professeurs. Donc j'attends chaque semaine le cours suivant pour progresser ils me le proposent. Voilà, ça a été ma démarche. Mais effectivement, sur Internet, on peut aussi apprendre. Le Chilien que nous avons rencontré au mois d'août, on n'avait pas encore commencé les cours et on a compris quand même, on a été très surpris de comprendre la majorité du dialogue qui s'est engagé avec les espérantistes. Et donc, ce Chilien, c'est ça, nous disait qu'il avait rencontré une espérantiste qui n'avait jamais pu avoir de conversation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait appris toute seule sur Internet et qui n'avait jamais dialogué avec un autre espérantiste. Donc, elle a été ravie, je crois que c'était sur Paris, ou enfin, je me rappelle plus du lieu, elle a été ravie de rencontrer enfin un espérantiste, un vrai en chair et en os, et de pouvoir converser avec lui, et elle a pu vérifier que... elle avait appris seule la langue, en fait. Mmh. Mais bon, ça, c'est une autre façon d'apprendre. Moi, je préfère quand même la rencontre humaine. Et je pense que c'est aussi la philosophie de l'espérantisme.
Faire des rencontres.
Les rencontres, voilà.
Eh bien, merci à Pascal et Jean-Claude, ainsi qu'à Pascal Gadeau de Radio Liberté, qui les a interviewés à Ribérac. Nous vous proposons maintenant une très belle chanson du folklore tzigane, traduite en espéranto par notre ami Yomo, et interprété par Nebojša Marković, plus connu sous le nom de Neno, pianiste et chanteur serbe.
Vagadi smila u vojoj jedela mondo, renko ti smi cigano esem maldoj, Pagadis mi la uvojo e de la vondo, renkotis mi cigano, jel sem mal zvoj. Aj, vrero male,
c'est maintenant l'heure de retrouver nos amis Dorothée et Pierre de Saint-Antoine d'Auberoche et Didier de Limeira pour le cours d'espéranto.
La ricchezzo della signoro, la ricchezzo degli avventro.
Bon, là c'est un petit cliché, un petit clin d'œil. La ricchezzo, que signifie ce suffixe ezzo, Pierre?
Le fait de...
La qualité, la manière.
C'est la qualité, effectivement. Riccia, c'est l'adjectif riche. Ricchezzo, c'est la qualité d'être riche, donc c'est la richesse. La ricchezzo della signoro. Et si l'on caricature un riche, comment est-il ce riche?
Diga. Liestas dica.
Liestas dica. C'est pourquoi il est gros. C'est pourquoi nous parlons de la ricchezzo degli avventro. Nous parlons de la grosseur de son ventre, la ricchezzo degli avventro.
La malriccezzo de Carlo, la malibereco,
rezzo,
liberezzo,
Deliahundo.
Bene. La malriccezzo de Carlo.
La pauvreté de Charles.
La pauvreté de Charles. Et la malliberezzo de Liahundo.
Et l'emprisonnement ou l'enfermement de, du chien?
Oui, ou sa captivité.
Sa captivité.
Voilà. Ouais. Liberezzo, ça serait la qualité d'être libre, sa liberté. Libera, c'est l'adjectif libre. Liberezzo, c'est la qualité d'être libre. La malliberezzo, c'est la qualité de ne pas être libre. Donc, mallibera, ça voudrait dire captif. Malliberezzo, ça signifie captivité. La captivité de son chien, de Liahundo.
Si faras flor el papero.
Didier ?
Alors, elle fait une fleur de papier à partir du papier.
Très bien. Elle. De, dans le sens de à partir du papier. Effectivement, elle, donc c'est un nouveau petit mot qui précise l'origine. Donc, l'origine de la fleur, c'est du papier. Elle fait une fleur à partir du papier.
Tiu floro estas paperaggio.
Paperaggio. Paperaggio. Tiu floro estas paperaggio. Ce suffixe ajo, nous l'avons déjà vu, il concrétise. Non, nous l'avons peut-être aperçu déjà, effectivement, avec d'autres mots plus simples comme mangiaggio et trincaggio. C'est le suffixe qui concrétise. Paperaggio, ça signifie ajo. El papero, c'est-à-dire chose en papier.
En papier.
Tiu floro estas paperaggio, ça peut signifier, Dorothée.
Cette fleur est en papier.
Cette fleur est en papier ou est un objet de papier pour rester plus proche de l'espéranto. Est un objet de papier.
Li faras meblon el ligno.
Bonne. Li faras meblon.
Il fait un meuble.
Il fait un meuble. El ligno.
À partir de bois.
À partir du bois. Très bien. En bois. Donc, en français, on dit volontiers de bois, en bois. Si on veut, disons, bien rendre la nuance du mot espéranto el, il faut dire à partir du bois. Mais bon, en français, il y a plusieurs façons de traduire, bien évidemment. Donc, que peut-on dire de ce meuble, Pierre ?
La meblo estas lignaio.
Lignaggio. Oui, alors c'est vrai que le J nous pose un petit problème pour nous français. S'il n'y a aucun accent sur ce J, s'il y a un simple point, c'est le I bref que l'on a par exemple dans yes. Hein? D'accord ? S'il est surmonté d'un accent circonflexe, eh bien il faut le prononcer comme en français. Donc ici, lignaggio. Ce suffixe qui concrétise s'écrit A, J chapeau, O. Lignaggio. Et j'insiste aussi sur le GN, qu'on ne prononce pas comme en français. En espéranto, je rappelle que toute lettre se prononce de la même manière, quelles que soient les lettres qui précèdent ou qui suivent. Donc, lignaggio. Je prononce le G, puis le N, sans les lier comme on le fait en français. La meblo estas lignaggio.
Botelo estas el vitro. Gi estas vitraggio.
Vitraggio, donc, c'est ça?
Yes, vitraggio, vi pravas. Vitraggio. Botelo estas el vitro, Didier.
Une bouteille est faite de verre,
peu importe, tu as traduit le sens, donc une bouteille, effectivement, est en verre. Gi estas vitraggio.
Donc c'est un objet de verre.
C'est un objet de verre, en fait, on a dit deux fois la même chose, de manière différente. Botelo estas el vitro, mot à mot, une bouteille est faite à partir de verre. Deuxième partie de la phrase, gi estas vitraggio, et bien c'est donc un objet en verre. Vitraggio, un objet de verre, de la verrerie si vous voulez. Pierre.
Forno estas el ferro, gi estas ferraggio.
Un fourneau est en fer.
Yes.
C'est de la ferraille.
C'est de la ferraille. Parfois, le mot français existe, ferraille. Il peut même avoir une connotation un petit peu péjorative pour ce pauvre fourneau. Parfois, il n'existe pas, donc il faudra dire un objet en fer. Ferraggio, donc, mot à mot, c'est un objet en fer. Et on peut dire que c'est de la ferraille.
Oui.
Tout à l'heure, ce serait de la boiserie, à la limite, pour...
lignage.
Lignage.
Oui.
Et on voit qu'il y a des suffixes différents en français.
Oui, oui, voilà. Tu as raison, Didier. L'espéranto est très systématique et c'est ce qui rend l'espéranto simple et facile et rapide à apprendre. Le suffixe « ajo », c'est toujours le même. Alors que là, un très bon exemple, « boiserie »,« ferraille », c'est des suffixes tout à fait différents. Et « verrerie », voilà trois suffixes différents. Pour finalement dire en français qu'un objet est constitué de quoi ? De verre, de bois, de fer. Donc pour l'espéranto, c'est toujours ajo.
Bonbonoi estas el sukero. Ili estas sukeraĵoj.
Sukeraĵoj, bone. Alors bonbonoi estas el sukero.
Des bonbons sont de sucre.
Oui. Ili estas sukeraĵoj.
Ce sont des objets sucrés. Ce sont des sucreries.
Ce sont des sucreries. Là, le mot français existe, donc on l'emploie. Mais on pourrait très bien dire, effectivement, ce sont des objets en sucre.
Viando estas manĝaĵo.
Bonne.
Lacto estas trinkaĵo.
Alors voilà des mots peut-être plus courants. Manĝaĵo, trinkaĵo. Viando estas manĝaĵo, Dorothée.
La viande est un aliment. Oui, oui, un aliment, je ne trouvais pas. Oui.
Un aliment. Est un aliment. Donc, mot à mot, ben, on pourrait dire de la viande est quelque chose qui se mange. Ajo, c'est une chose, c'est un objet. Donc, si on n'a pas le mot français immédiatement à l'esprit, on peut très bien dire... De la viande est quelque chose qui se mange, ou bien de la viande est un aliment. Et lacto estas trinkaĵo, Didier.
Le lait, enfin bien que ce soit un lait, mais bon, là c'est...
Le lait en général. Voilà, le lait en général.
Le lait est une boisson.
Le lait est une boisson, trinkaĵo, boisson. Je crois que Pierre aimait bien le mot de breuvage.
C'est québécois, ça.
C'est un breuvage. Et d'ailleurs, le suffixe là, va bien, âge.
Oui, le suffixe va bien.
Oui, oui, ouais. Effectivement, le suffixe âge est proche de l'espéranto âge. Dankon, nous allons suivre maintenant les aventures, revenir aux aventures de Johannino kaj Karlo. Qui est ili estas?
Ili estas en Berlino.
Yes, en Berlino. Ils sont à Berlin. Donc, bonvolu legi, Pierre et Dorothée va traduire.
Traduce. Kun la camarado Fredo, ili visitas la urban.
Yes. Dorothée.
Avec la camarade Fredo, il visite la ville.
Alors, le camarade. Voilà.
Sinon, ça
bon.
C'est la camaradine.
La camaradine.
Ouais, très bien. Ouais. Donc, Fred, c'est plutôt un prénom masculin, quoique Frédéric, c'est un prénom féminin, mais surtout la camarado. Sinon, ça serait la camaradino.
Ouais, c'est vrai.
Donc, c'est un garçon. Con la camarado Fredo, il y visitas la urbon.
Urbon, avec l'accusatif.
La urbon, yes.
Premier accusatif.
Avec le camarade Fred, il visite la ville.
Et donc, comme tu disais tout à l'heure, là, c'est le coon d'accompagnement.
Très bien, bravo. C'est le coon d'accompagnement. Voilà. Tu as raison, Didier. Dankon. Bonvolu legi, Didier.
Fredo montras la monumenton.
Fred montre le monument.
Yes, bonnet.
Li parolas. Citi estas la granda pordego.
Il parle.
Li parolas, il parle. Citi est. Ici.
Voici.
Très bien, ici, ici. Ci insiste sur la proximité immédiate. Donc, citi est, on va traduire par ici. Ti est, simplement, on va traduire par là. Citi estas la granda pordego.
Alors, ici est la grande Et le grand portail, le grand, c'est la porte.
Entrée.
La grande.
Oui, je pense que c'est la porte de Brandebourg. C'est la porte de Brandebourg. Donc, effectivement, Didier, tu es un petit peu étonné parce que tu vois la grande, adjectif grand, et tu vois le suffixe augmentatif Pordego.
Mais c'est gigantesque tout ça.
Voilà. Donc, Pordego est déjà une grande porte. Granda Pordego, donc c'est une porte immense. Effectivement, c'est la porte de Brandebourg à Berlin.
Johannino demandas.
Yes.
Jeanne demande.
Oui, demande, ou bien on peut dire questionne pose ici, question. Lorsque le mot est employé de cette manière, de manière non transitive. Donc Jeanne questionne.
En la mano de Carlo, estas la urbo plano.
Dans la main de Charles, il y a le plan de la ville.
Très bien, encore un mot composé, urbo plano.
Urbo plano.
Plano, c'est un plan. Urbo plano, c'est le plan de la ville. Bonnet.
Ancor Fredo havas verdan stelon.
Très bien.
Fred a aussi une étoile verte.
Voilà, et tu l'as effectivement en français, c'est bien dans ce sens, dans cet ordre-là qu'on le dit. Ancao Fredo, c'est bien pour insister sur Fred aussi. Fred aussi a une étoile verte.
Li estas esperantisto kaj loĝas en Berlino.
Il est esperantiste et habite à Berlin.
Très bonne.
Fredo tre bone parolas Esperanton, kaj li bone gvidas la geknabojn.
Très bien prononcé.
Fred parle très bien l'espéranto et il guide, et il les guide bien, et il guide bien, en effet, les jeunes gens.
Voilà, les jeunes gens. Geknaboy, c'est knaboy kai knabinoy. Là, il y a un garçon et une fille, puisque nous avons Carlo kai Johannino. Très bonne. Je vous pose peut-être quelques questions sur cette première partie. Kun kiu ili visitas la urbon? On va traduire peut-être la question. Dorothée va traduire la question et Didier y répondre.
Qui visite?
Avec qui?
Kun kiu? Avec qui visite-t-il Berlin?
Très bien. Avec qui, dans le sens en compagnie de qui visite-t-il Berlin? Didier?
Ili visitas la urbon kun la camarado Fredo.
Bone. Kiu nomigas tiu urbo? Comment s'appelle cette ville?
Tiu urbo nomigas Berlino.
Voilà, cette ville se nomme Berlin. Kion Fredo montras?
Qu'est-ce que Fredo montre?
Voilà, que montre Fred ou Fredo?
Et la réponse est Fredo montras la urbo planon.
Non.
Pas encore.
Ah,
qu'est-ce qu'il montre là?
La grande porta.
Yes,
là c'est toi.
La grande porta.
Ou tout simplement Fredo montras la monumenton.
La monumenton.
Ce qui me permet d'ajouter kiun monumenton. Fredo montras.
Quel monument Fredo montre-t-il? Fredo montras la grandan pordegon.
Très bien.
De Brandebourg.
De Brandebourg.
De Brandebourg. Vipravas. Donc, Fred montre la grande porte. Kio estas en la mano de Carlo?
Ah, nous y voilà, Dorothée.
Qu'est-ce qu'il y a dans la main de Charles?
Très bonne.
Dans la mano de Charles.
En la mano de Carlo.
En la mano de Charles.
De Carlo.
De Carlo. Estas la urbo plano.
Très bien. Plano. Dans la main de Charles, il y a le plan de la ville.
Et là, on n'a pas d'accusatif. Pourquoi? Mais alors pourquoi?
Parce que c'est pas un complément, c'est le sujet. Voilà.
Alors, c'est une bonne question de Didier et une bonne réponse de Pierre parce que.
C'est le sujet.
C'est le sujet. Urbo plano est le sujet du verbe être. Ciu ancau Fredo havas verdan stelon. Bonne volu traduki.
Est-ce que Charles aussi a une étoile verte?
Yes, Fred aussi, ne gravas. Bonne volu respondi? Veuillez répondre.
Yes, ancau Fredo havas verdan stelon.
Yes, vi pravas. Kie loĝas Fredo? Kie Fredo loĝas aŭ kie?
Où est-ce que Fredo habite? Fredo loĝas en Berlino.
Tre bone.
Fredo habite Berlin.
Kiel li parolas Esperanton? Ĉu bone? Ĉu malbone?
Comment parle-t-il l'espéranto? Le parle-t-il bien ou très bien?
Ciu bone, ciu malbone?
Ah, ou mal.
Voilà, bien ou mal. Bien.
Li parolas tre bone.
Li parolas tre bone esperanton. Kiel li gvidas la geknabojn?
Comment conduit-il les jeunes gens? Li gvidas la geknaboj bone. En la urbo.
Yes, la geknaboin.
Bonne.
Voilà, la geknaboin. C'est vrai que nous, les Français, nous avons tendance à parfois oublier l'accusatif. Donc, nous allons mettre quelques leçons à nous familiariser avec cet accusatif.
Ah, cet accusatif. C'est vrai, c'est parfois un souci, même pour les plus expérimentés. Mais comme les espérantistes le répètent souvent, « Ne forgesu la accusativon ». Vous non plus, chers amis, n'oubliez pas l'accusatif. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, saluton, la prochaine émission.
Gisbaldau.